Economica, Anne Isla
et Jacques Lavergne. Bonjour.
Bonjour. Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Voilà, vaste programme, bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par la citation du jour, qui est celle-ci. Quand on a beaucoup médité sur l'homme, par métier ou vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. C'est dans La Chute d'Albert Camus, bien sûr, vous l'aurez reconnu, ça faut dire que je ne suis pas des plus optimistes sur mes concitoyens par les temps qui courent. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un sujet central, extrêmement d'actualité, extrêmement technique, où d'ailleurs personne ne comprend plus rien, qui s'appelle les retraites. Mais avant quelques brèves, rapidement. Alors l'OCDE, d'abord, qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, vous pouvez lire ça dans Le Monde, sous la plume de Julien Bouissou, qui nous dit que le ralentissement de la croissance mondiale entraîné par la guerre en Ukraine risque d'être plus important que prévu et aucun pays ne sera épargné. Dans ces perspectives économiques intermédiaires que l'OCDE, et je rappelle ce que ça veut dire, l'Organisation de coopération et de développement économique, a dévoilé le lundi 26 septembre, eh bien l'OCDE table sur une hausse du produit intérieur brut, le fameux PIB. Peut-être un jour on pourra dire tout le mal qu'on pense du PIB, qui n'est certainement pas le meilleur
des indicateurs.
Voilà. Le produit intérieur brut de la planète, 2,2% en 2023, comme contre 2,8% lors de ses précédentes estimations de juin, donc un rythme largement en deçà de celui enregistré avant le conflit. Les prévisions pour 2022 restent inchangées à 3%. La zone euro sera la plus touchée avec une quasi-stagnation en 2023, 0,3%, donc quasiment on fait du sur place. Après, surtout, ce qui est sensible, c'est qu'il y a eu un fort rebond en 2022 puisqu'on avait 3,1%, il a passé à 0,3% évidemment. Ça fait un gap extrêmement important. Donc hormis la Russie, l'Allemagne est le pays du G20 qui va connaître le décrochage le plus important. Son PIB devrait se contracter à 0,7% en 2023, après une hausse de 1,2% en 2022, alors que celui de la France devrait progresser, cocorico, de 0,6%. Nous allons devoir tous payer un prix très élevé pour cette guerre, et ce faisant, j'ai cité Alvaro Santos Pereira, qui est l'économiste en chef de l'OCDE. Aucun État n'échappe au ralentissement, à l'exception de la Chine, qui se remet d'une année émaillée de confinement lié au Covid-19, la Russie devrait, selon M. Pereira, connaître la pire récession jamais enregistrée dans un pays du G20 au cours de ces deux ou trois dernières décennies, avec une contraction de son PIB de 5,5% en 2022 et 4,5% en 2023. Alors parlons d'HEC, ces grandes écoles, où il se passe des choses dans ces grandes écoles. On voit les étudiants qui commencent un peu à ruer dans les brancards. Et le HEC a reçu, a joué en Josas à son siège, Timothée Parikh, qui est un chercheur en économie écologique et spécialiste de la décroissance et de la post-croissance. Je ne sais pas si vous le connaissez, Anne.
De nom,
voilà. Et Timothée Parikh a commencé son intervention comme ça, et je le cite, « La première fois que j'ai entendu parler lors d'une conférence de la décroissance, j'étais étudiant en deuxième année d'économie à l'université de Versailles-Saint-Quentin. J'avais votre âge et j'ai ricané. Et je me suis dit, c'est qui ce plouc, ce guignol, qui n'a jamais pris un seul cours d'économie. Depuis, j'ai fait pas mal de chemin. » C'est avec ce début un peu tonitruant que Timothée Parikh, c'est un jeune homme, il a 33 ans, qui est l'auteur de « Ralentir ou périr, une économie de la décroissance » au Seuil, qui est sorti en 2022 pour la modique somme de 20 euros. Mais j'imagine que ça doit valoir son pesant d'or, cette lecture. Donc il avait un parterre d'étudiants et de salariés d'HEC Paris, c'était le lundi 19 septembre, et pendant une heure il leur a exposé les thèmes de son livre qui vient de sortir, est sorti le 16 décembre et qui est déjà en rupture de stock. Il leur a parlé de l'impossible croissance verte, des fausses promesses de la croissance économique, le projet de société de la post-croissance, etc. L'économiste qui est actuellement en poste à l'université de Lund, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est en Suède, était aussi invité à dispenser un cours sur les fondements de la décroissance aux 380 étudiants de première année. Et depuis 2021, tous les élèves suivent un séminaire de 18 heures d'enseignement sur le dérèglement climatique, un parcours mis en place en réponse à une demande pressante des étudiants. Quand même paradoxal que ce soit les étudiants, mais c'est bien, hein, mais que ce soit les étudiants qui soient obligés de tordre un peu le bras de la direction pour y arriver. Notons depuis 2010, dans le monde académique, la décroissance est un thème en pleine ascension. 600 articles en anglais depuis 2007, dont 100 publiés en 2022. Et selon des chiffres cités par le toujours Timothée Paris, qu'il y aurait en ce moment 79 mémoires et 33 thèses de doctorat sur la décroissance. Je ne sais pas, vous qui suivez des doctorants, si vous en avez dans votre...
Oui, qui parle peut-être pas forcément de décroissance ou qui utilise peut-être pas le mot croissance, décroissance, mais c'est vrai que le problème de la croissance, c'est-à-dire de l'accumulation, hein, de l'accumulation sans arrêt, sans s'arrêter, sans interruption, cette accumulation qu'on mesure avec la croissance du PIB, justement, ce fameux PIB, eh bien ça commence à poser problème. Eh bien, on voit la situation dans laquelle est la planète. Donc aujourd'hui, toutes les thèses, même si ce n'est pas leur thème central, abordent ce sujet-là.
Voilà, et sous l'impulsion du GIEC, on va pas revenir dessus, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pardon, les premiers froids entraînent les premiers refroidissements. De Jacques Lavergne, vous l'avez entendu, si ma voix doit le trahir. Alors le budget 2023, forte augmentation des budgets pour les transitions écologiques et énergétiques, c'est l'une des plus fortes augmentations du budget. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ainsi que celui de la Transition énergétique, peuvent se féliciter des 59,6 milliards d'euros inscrits au projet de loi de finances 2023, ce qui constitue une augmentation de 15% par rapport à 2022, sachant que 40,3 milliards sont affectés au ministère de M. Christophe Béchu, qui s'occupe de la transition écologique et de la cohésion des territoires. M. Béchu, on n'a jamais vu sur le front des incendies, tout le monde se demande d'ailleurs comment il est fait. Et puis on en a mis 19 milliards à celui d'Agnès Pannier-Runacher qui s'occupe de l'énergie. Les plus grosses lignes de dépenses sont vouées à cette énergie, vous l'avez compris, aux mobilités, aux collectivités ou encore à la biodiversité. Dans un contexte d'inflation du prix des énergies, le soutien annoncé aux énergies renouvelables et au nucléaire, objectif atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Sur les 19 milliards d'euros affectés à l'énergie, trois postes principaux sont à noter. La rénovation des logements et l'aide à l'achat de véhicules propres. On ne sait pas trop ce que c'est que les véhicules propres. C'est peut-être des véhicules électriques qui posent un certain nombre d'autres problèmes. On en parlera peut-être dans l'émission Arcania qui est dédiée à ce type de problématique. Également, l'accélération de la décarbonation et du mix énergétique et le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité en 2023. Donc quelques 12 milliards d'euros, alors ça fait un peu rêver tous ces chiffres, il n'y a jamais d'argent, mais il y a des milliards tombent, c'est extraordinaire. Quelques 12 milliards d'euros seront ainsi consacrés à la prolongation du bouclier tarifaire en 2023, donc hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, qui doit être limité à 15%, et le coût global du bouclier tarifaire est évalué à 45 milliards d'euros en 2023. Mais une partie de cette somme sera atténuée par des recettes des énergies renouvelables prélevées par l'État, estimée elle à 38 milliards d'euros. Alors, le projet de loi de finances devait être présenté lundi 26 septembre à mon Conseil des ministres, en même temps qu'une nouvelle loi de programmation de finances publiques fixant une trajectoire budgétaire sur 5 ans. On dirait qu'on planifie. Alors, pour vous donner quand même quelques idées, l'enseignement scolaire, 935 millions d'euros pour augmenter les enseignants, ils en ont bien besoin. La défense, eh bien, 3 milliards d'euros de plus. L'intérieur, la sécurité est érigée en priorité, vous savez quand même, il faut toujours soigner sa police. Hein. Le travail, 6,7 milliards de plus pour atteindre le plein emploi. Les sports, un budget en légère augmentation, ce qui permettra d'aller à la Coupe du Monde de foot du Qatar, certainement. Le budget de la Sécu, il paraît que les comptes se redressent pour l'instant, mais que ça va replonger plus tard. Et le budget du ministère de la Culture augmentera de 7,4% en 2023, une augmentation bienvenue. Voilà pour ces quelques brèves. Et je vous propose de passer au morceau de résistance que nous a concocté Anisla. Est-ce que nous aurons encore des retraites dans 5, dans 10 ans, dans 30 ans ? Bien sûr, Madiane, en préparant l'émission, bon, elle va essayer de nous le démontrer. Le système des retraites est en équilibre, voire en excédent, au moins jusqu'en 2050, ce qu'on ne nous dit pas forcément. Alors, quand on lit ça, on se dit, mais pourquoi faut-il réformer les retraites et surtout, pourquoi les faut-il les réformer à la hussarde ? Mais avant de parler de la situation actuelle et des objectifs du gouvernement, avec ces enjeux qui s'y jouent, on va faire un peu d'histoire, on va regarder en arrière, comment tout ça a démarré le système des retraites. Alors Anne, l'économiste va se transformer en historienne.
Alors un petit peu d'histoire, un petit peu de retour en arrière. Il faut remonter juste après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, où on va généraliser la sécurité sociale, incluant le régime des retraites, par répartition, par une loi. La loi du 22 mai 1946 qui avait été votée le 26 avril par l'Assemblée. Alors, ce régime général de sécurité sociale qui englobe les retraites a une gestion ouvrière, donc ce sont les travailleurs qui doivent gérer cette sécurité sociale. On l'oublie parfois hein, lorsqu'on place l'État comme seul partenaire pour décider de ce qu'il faut faire les retraites, alors qu'au départ, le partenaire principal, ce sont les salariés.
Et ce n'est pas une gestion paritaire.
Alors si, il y a une gestion paritaire, mais au départ, la gestion était principalement par les salariés, puisque c'était eux qui devaient gérer, alors attendez que je me... le tiers de la masse salariale, hein, la moitié du budget de l'État est le tiers de la masse salariale. Donc c'est énorme, hein. Bien sûr, ensuite, c'est un système paritaire. Il faut discuter entre les différents partenaires sociaux et la discussion, visiblement, en ce moment, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et pourtant, on sait bien hein, qu'en général, une gestion commune, c'est beaucoup plus efficace hein, que de mettre le plus de marché possible pour essayer de réguler les choses. Alors, 1946, donc, c'est la mise en place de ce régime de retraite. C'est aussi, hein, je vous rappelle, la nationalisation de l'électricité et du gaz qui avait donné naissance à EDF et à GDF. Bon, c'est aussi donc, c'est toutes ces grandes nationalisations, la nationalisation de la Banque de France, des grandes compagnies d'assurance, bon, etc. Alors on pourrait aussi hein, faire une émission sur les nationalisations 46, 82, et puis EDF en ce moment.
Mais ça nous entraînerait
un peu loin. On fera peut-être une émission uniquement sur ça. Donc en 1946, on va poser comme principe fondamental, à côté de l'égalité et à côté de la liberté, la sécurité, hein, la solidarité. Donc c'est un système solidaire de socialisation des risques de l'existence. Donc on a droit à une retraite quand on arrive à un certain âge, certes parce qu'on a travaillé, mais aussi parce qu'on a fait partie d'une société, hein, on a participé à l'évolution de la société et donc on a droit à une retraite. C'est pas un calcul uniquement comptable, 1 euro de cotisation égale tant de retraite, hein. C'est plutôt un système de solidarité beaucoup plus large. Alors en 1946 aussi, il faut noter que c'est le Conseil national de la résistance qui avait réfléchi à ça et qu'on n'a pas demandé aux économistes leur avis pour savoir s'il fallait ou non mettre en place un système de retraite. C'est un choix politique au départ. Et ensuite, l'économie va arriver pour instrumentaliser ce choix politique, pour donner les outils. Mais ce n'est pas aux économistes donc de dicter les orientations politiques.
C'est un choix de société.
C'est un choix de société.
Comment se fait-il que les économistes veuillent toujours... Alors, pardon, Anne, hein, je sais que vous êtes économiste, mais comment se fait-il que les économistes veulent toujours mettre leur nez partout ?
Alors, je suis... économiste, mais comme Keynes, qui était aussi un économiste, ou comme Bernard Marius, ou comme plein d'autres, je considère que l'économie est seconde. C'est un instrument pour mettre en place la politique, et c'est pas elle qui doit dicter les orientations politiques au nom de soi-disant lois naturelles de l'économie qui, du reste, n'existe pas. La gestion des retraites, c'est un choix politique. Et selon le choix politique que l'on va faire, eh bien, on va choisir tel système de retraite ou tel autre, de réduire les retraites, de créer des retraités pauvres ou pas, mais on va aussi, plus largement, regarder si le droit du travail doit l'emporter sur le droit commercial, bon, etc. Toute une série de choix. Donc si on choisit aujourd'hui de mettre en place un système économique libéral ou néolibéral, eh bien c'est un choix politique. C'est pas un choix qui est dicté par des soi-disant contingences économiques. Et d'ailleurs, quand on regarde le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui vient de sortir là vers le 20 septembre, il précise, ce Conseil d'orientation des retraites précise qu'au regard des résultats, donc je cite, il ne revient pas au Conseil d'orientation des retraites de se positionner sur le choix du dimensionnement du système de retraite. Selon les préférences politiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux sont trop ou pas assez élevés et qu'il faut ou non mettre en œuvre une réforme du système des retraites. Donc même le Conseil d'orientation des retraites dit c'est un choix politique, il n'y a aucune contrainte financière pour modifier les retraites.
Alors est-ce que le politique a conscience que son rôle est éminent dans cette affaire ou pas aujourd'hui ?
Alors je pense que les politiques sont quand même des gens intelligents, donc ils sont parfaitement...
Ah bon ?
Oui, certainement, enfin, je pense. Enfin, disons que je leur donne crédit de l'intelligence, donc ils savent pertinemment que ce sont des choix politiques, même s'ils se cachent derrière des exigences économiques, des exigences soi-disant économiques. Ils vont dire, il faut absolument qu'on fasse cette retraite. Mais en réalité, ces réformes, ce n'est pas une urgence. Et même, j'écoutais un patron ce matin, je crois, ou hier, à la radio, même le MEDEF dit, il n'y a pas urgence dans l'évolution des retraites. Alors, pour bien comprendre ça, il faut aussi revenir sur un point, c'est que dans le système des retraites, il y a deux grands systèmes. Il y a le système par répartition, celui qu'on a mis en place donc, après la Seconde Guerre mondiale, le système le plus important encore en France, celui qui est le plus efficace, celui qui est le moins coûteux, celui qui est le moins risqué. Et puis, il y a le système par capitalisation. C'est un système donc, où on va gérer les retraites par le biais du marché financier. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas une solidarité qui est mise en place, comme dans le système par répartition, où il y a une solidarité intergénération. Cette fois-ci, par capitalisation, eh bien, chaque salarié doit capitaliser, donc économiser pour sa propre retraite. Alors on voit bien la différence. Dans le système par répartition, celui qui travaille aujourd'hui paye les retraites de celui qui est à la retraite aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à gérer. Tandis que dans le système par capitalisation, le salarié va devoir économiser pendant 30, 40, toute la durée, toute sa durée de vie au travail pour sa propre retraite. Donc là, il va falloir gérer le capital pendant 40 ans.
Et qui c'est qui le gère, ce capital ?
Alors, dans le système par capitalisation, il y a des institutions qui gèrent ce capital qu'on appelle des fonds de pension. Ce sont des institutions financières.
Françaises ou étrangères ? On peut tomber sur n'importe qui, là.
On peut tomber sur n'importe qui. Alors, donc le système par capitalisation, c'est le système qui est mis en place aux États-Unis. Et au départ, quand il est mis en place aux États-Unis, les fonds de pension sont internes aux entreprises. C'est un département, on pourrait dire, c'est un des départements des entreprises. Donc c'est l'entreprise qui va gérer son fonds de pension. Mais ça, on a trouvé que ce n'était pas assez concurrentiel. Donc on va mettre en place des lois aux États-Unis, puis après on va suivre en France dans les années, à partir des années 90-2000. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des fonds de pension concurrentiels. C'est-à-dire on va les externaliser des entreprises. Donc ce sont des fonds de pension qui vont se spécialiser dans la gestion des retraites.
Mais c'est peut-être pas trop mal que ces fonds de pension n'appartiennent plus aux entreprises. Imaginons une entreprise qui dépose son bilan, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, alors voilà, il faut imaginer bien sûr que le fonds de pension qui est internalisé à l'entreprise puisse être sauvé quand il y a faillite. Bien sûr, il faut mettre en place des systèmes juridiques. Mais le problème, c'est que lorsqu'on met des fonds de pension en concurrence, eh bien, on accentue la financiarisation des retraites, parce que ça veut dire que les fonds de pension vont devoir, pour attirer leurs clients, c'est-à-dire leurs futurs retraités, les salariés, les futurs retraités, pour attirer leurs clients, ils vont devoir montrer des rémunérations extrêmement importantes, des rémunérations passées extrêmement importantes. Et donc, ils vont devoir prendre de plus en plus de risques sur les marchés. Parce que ça, on voit bien qu'il va y avoir un cercle un peu vicieux qui va s'installer.
Oui, et ces fonds sont-ils contrôlés dans leur... Parce que prendre des risques sur les marchés, ça peut amener aussi, je parlais de l'entreprise qui dépose son bilan, une déconfiture également du fonds de pension. Et alors là,
bien
qu'est-ce
sûr,
qui se passe?
Bien sûr.
Alors, les sous qu'ont mis les salariés dans les fonds de pension sont perdus,
oui.
J'imagine.
Oui. Alors, dans les fonds de pension, il faut bien comprendre aussi qu'il y a deux types de fonds de pension. Il y a les fonds de pension qui vont garantir le niveau de retraite. Donc, vous allez cotiser pendant 40 ans, et puis, à la fin, vous saurez que si vous avez cotisé tant pendant tant d'années, vous aurez tant de retraite. Et puis, il y a les fonds de pension à contribution définie. C'est-à-dire que là, par contre, on ne définit pas le niveau de la retraite. Ça dépendra du marché. Donc, le fonds de pension ne s'engage que sur les moyens et pas sur les fins.
Ce qui devient extrêmement dangereux parce que vous pouvez vous retrouver avec peanut, si vous me passez l'expression, au moment où vous prenez la retraite.
Oui, alors le problème qu'on a, c'est vrai, le problème qu'on a, c'est qu'on va favoriser les fonds de pension qui ne s'engagent que sur les moyens et sur les fins, et pas sur la fin, et pas sur le niveau des retraites, on va les favoriser avec toute une série de lois. Hein. Par exemple, la loi Fillon en France, hein, qui va favoriser ce type de fonds de pension. C'est-à-dire que si les entreprises et les salariés cotisent pour les retraites dans ces fonds de pension qui ne définissent que les moyens et pas les fins, eh bien, vous aurez des avantages fiscaux, etc. Donc, on a aussi favorisé ce type de fonds, c'est-à-dire des fonds encore plus risqués. Parce que bien sûr, le premier type de fonds qui, lui, s'engage sur le niveau de retraite va aller investir dans des domaines plus à long terme, plus... voilà.
Donc, quel est le plus sûr, finalement? Que les actifs d'aujourd'hui payent les retraites de ceux qui ne le sont plus, ou le reste, ou alors est-ce qu'il faut faire un combinat des deux?
Alors, il me semble, pour moi, je pense que c'est le système de répartition le plus efficace, parce que c'est le moins coûteux. Hein, qu'est-ce qu'il faut pour un système par répartition? Il faut quelques secrétaires qui, enfin, bon, je caricature bien sûr, hein, mais qui transfèrent l'argent de ceux qui sont en train de travailler à ceux qui sont à la retraite. Ça coûte pas grand-chose. Par contre, dans un système par capitalisation, il faut toute une armada de traders qui vont placer au mieux. Donc ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus risqué aussi. Parce qu'on peut aussi avoir une vision qui ne soit pas uniquement économique et se dire le système des retraites, c'est un système qui est fait pour que les individus aient le moins de risques possible, pour que les individus puissent travailler en se disant « quand je serai vieux, j'aurai une retraite ». Sans avoir le risque de tomber dans la pauvreté. C'est ça, hein, le système des retraites en 1946, c'est parce que les retraités étaient pauvres, sinon. Sauf ceux qui arrivaient à revendre leur affaire, mais sinon les autres étaient pauvres.
On fait une première pause musicale. Anne, c'est vous qui l'avez choisi?
Ah oui, j'ai choisi une chanson ancienne de Salvador sur le travail. À une époque où, justement, dans les années 70, c'était le système par répartition en France qui était...
Il y avait le vent en poupe, le seul d'ailleurs qui fonctionnait.
Et le seul qui était en place, oui.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du pas de vieux os. Ils bossent, on 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi le travail me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail c'est la santé, tu parles. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Maintenant dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus. Pour se payer tout le confort, quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os.
Voilà, t'as votre poids pour te feignant là.
Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os.
Allez, encore un effort.
Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os.
Voilà Henri Salvador que nous retrouvons. Et que ça nous ramène un peu, c'est presque nostalgie, mais effectivement, à l'époque, cette chanson est une heure de gloire. Alors, ces retraites, Anne, est-ce qu'il faut les réformer? Pourquoi les réformer? Est-ce que c'est aussi urgent que ça? Si on entend M. Macron, vite, vite, il faut le faire. Tout le monde lui dit, on se calme. Même le MEDEF, vous l'avez rappelé tout à l'heure, même M. Bayrou qui a dit, on ne réforme pas ça avec un article dans la loi de financement de la sécurité sociale qui... On va essayer de commencer à parler, on va essayer de parler avec les partenaires sociaux, ce que M. Macron ne sait pas toujours bien faire. On va essayer de tous se mettre autour d'une table et d'examiner la situation.
Oui, parce que c'est vraiment un choix de société et donc les partenaires sociaux doivent vraiment être présents. Et surtout qu'il n'y a aucune urgence à toucher à notre système de retraite. Hein. Si on regarde le rapport dont je parlais de septembre 2022 du Conseil d'orientation des retraites, le système a dégagé un excédent cette année de 900 millions d'euros, en 2021. Il avait enregistré aussi un excédent l'année précédente. Il devrait enregistrer, ce ne sont que des chiffres que je sors de ce rapport du Conseil d'orientation, qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Donc, il devrait enregistrer un excédent de 3,2 milliards d'euros en 2022. Et pourtant, parfois, on parle d'un déficit. Alors, c'est vrai que quand on regarde ce rapport, dans le pire des scénarios, parce qu'il y a plusieurs scénarios, on enregistrerait un déficit pour 2025. Mais ce déficit deviendrait un excédent dès la mi-2030. Hein. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas dans des choses trop, trop graves. D'autant que ce n'est pas un déficit si on regarde les réserves que l'on a. Et on a des réserves. En 1996, premier point, on a créé la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour gérer la dette de la sécurité sociale. En 2024, cette caisse aura fini de rembourser la dette de la Sécu. Donc toujours selon le rapport. Hein. De ce fait, comme l'a signalé son président Jean-Louis Rey, en 2024, ce sont l'équivalent de 24 milliards d'euros qui seront disponibles. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Aucun gouvernement ne s'est trouvé historiquement avec une telle manne, dit Jean-Louis Rey. Deuxième point, on a un fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin. Ce fonds, on l'a alimenté pendant plusieurs années, chaque mois, avec des cotisations sociales. Je cite le Conseil d'orientation des retraites. Le fonds de réserve pour les retraites dispose d'un actif net de 26 milliards d'euros, relativement stable par rapport à 2020, alors que ce fonds acquitte un paiement annuel de 2,1 milliards d'euros à la CADES pour payer la dette sociale. Troisième point, il y a aussi l'AGIRC-ARRCO, l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, Association des Régimes de Retraite Complémentaires. Donc ce sont des caisses complémentaires à la Sécu, ce sont des caisses privées, auxquelles des millions de personnes ont cotisé. Et là aussi, je cite le Conseil d'orientation, page 108, s'il y en a qui veulent vérifier, le total des réserves de l'AGIRC-ARRCO s'établissent à 86,5 milliards d'euros. Donc 24 milliards plus 86,5 plus 26, ça fait largement au-dessus des 27 milliards de déficit que l'on aurait dans le pire scénario en 2025.
Donc il n'y a pas péril en la demeure.
Non, vous voyez, il n'y a pas tout à fait péril en la demeure.
Alors comment, dans un pays qui est vieillissant, je ne sais pas si la France l'est, et dans un pays où il y a moins d'actifs que de retraités, est-ce qu'il ne se crée pas un déséquilibre ?
Alors, bien sûr, on va parler de la démographie pour dire qu'il faut absolument modifier, faire une réforme de ces retraites. Mais c'est pas forcément le cas. Bien sûr, il y a des mouvements démographiques. Bien sûr que ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, les baby-boomers, eux, ils ont payé peu de cotisations parce qu'ils n'avaient pas grand monde à payer à la retraite quand eux étaient non retraités. Et puis, ils profitent des retraites qui sont payées aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas beaucoup cotisé et ils ont des retraites relativement élevées. Aujourd'hui, il y a moins de, démographiquement, il y a moins de gens qui travaillent, certes, mais si on relève un tout petit peu les points de cotisation, alors je l'avais regardé dans le rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, il suffirait d'augmenter le taux de prélèvement de 0,7 à 0,8 points en 2027, ce qui fait 2,5 euros pour les salariés et 2 euros pour les employeurs, pour avoir de l'excédent en permanence. Donc vous voyez, il y a quand même des cotisations, on est quand même un pays riche, vous le disiez tout à l'heure dans vos brèves, il y a des milliards par-ci, il y a des milliards partout. Donc on est un pays riche, on peut financer un système par répartition, surtout que c'est le moins coûteux. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre.
Et le moins risqué.
Et le moins risqué.
Si je vous ai bien entendu. Alors ce débat de trimestre, d'un quota de trimestre de cotisation et d'un âge de départ à la retraite de 65 ans, comme le voudrait M. Macron, comment ça s'articule cette affaire ? Comment ça fonctionne ? Ça veut dire qu'il faut déjà avoir un minimum de trimestres travaillés pour pouvoir partir. Comment on articule ça avec une date de départ à 65 ans ? Ce qui me semble assez illogique si vous avez commencé à travailler très jeune. Pourquoi attendre 65 ans si au surplus vous avez les trimestres ?
Alors, le problème, c'est que on ne sait pas exactement la réforme que veut faire Emmanuel Macron. Il dit qu'il veut réformer, on sait dans quel sens il veut le réformer, puisqu'il veut financiariser les retraites au maximum. Il a toujours dit qu'il a favorisé les marchés financiers dans toutes ses politiques. De toute façon, il veut aussi faire des économies, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Alors, c'est vrai qu'il veut décaler l'âge pivot, ce qui voudrait dire que si vous avez assez de retraites, je ne sais pas, si vous avez cotisé assez de semestres, par exemple à 60 ans, imaginons que vous avez tous vos trimestres à 60 ans et un âge pivot à 65, ça veut dire que pendant 5 ans, vous allez travailler
pour rien
ou pour avoir une retraite un peu plus importante.
C'est relativement inexplicable.
C'est relativement inexplicable. Alors, c'est vrai qu'on pourrait chercher, du coup, pourquoi il y a cette volonté de faire cette réforme.
Alors, pour le coup, elle est politique, cette volonté, non ?
Elle est tout à fait politique, mais d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, plusieurs fois, il l'a dit, on fait une réforme des retraites aussi pour payer, alors qu'est-ce qu'il a dit ? L'école, la santé, etc. En fait, c'est un impôt supplémentaire. C'est un impôt qu'on appelle réforme des retraites, mais c'est tout simplement un impôt supplémentaire, puisque il veut utiliser, enfin c'est lui-même qui le dit, hein, il veut utiliser les économies qu'il va faire sur la retraite pour payer d'autres secteurs.
Enfin, c'est voilà. Déshabiller Pierre pour habiller Paul.
C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est aussi mettre des classes sociales en conflit, et notamment les jeunes par rapport aux vieux, aux vieux, aux personnes plus âgées, c'est-à-dire celles qui votent pour Macron. celles qui votent pour Emmanuel Macron, c'est aussi un peu flatter son électorat. Alors ça se fait en deux étapes. D'abord, on fait peur aux retraités, on leur dit « attention, vous n'aurez pas de retraite parce qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent, etc. » Et puis ensuite, on leur dit « mais ne vous inquiétez pas, on va réformer les retraites. » Donc ensuite, on les flatte. Mais c'est une politique un peu facile de travailler, de faire de la politique par la peur, comme ça, attention aux retraites, d'autant que...
Ça se fait beaucoup aujourd'hui, la politique par la peur. On dit attention à l'immigré qui arrive, qui va te piquer ta femme et tes bijoux, etc., etc.
Oui, alors que là aussi, les migrants rapportent plus qu'ils ne coûtent. Hein.
Oui, c'est ce que Mme Merkel avait cru comprendre à une certaine époque. Oui. On lui a beaucoup reproché, mais enfin bon...
Oui, parce que déjà, les migrants qui arrivent, en général, ce n'est pas des personnes très âgées, ce n'est pas des personnes très malades. Hein, c'est pour traverser la Méditerranée, il faut être jeune et en bonne santé.
Oui, les autres, on peut estimer que les plus malades ou les plus faibles y sont restés. Malheureusement, c'est un peu cynique de le dire.
Mais c'est quand même la réalité. Donc, ce sont des individus qui ne coûtent pas cher. Et qui rapporte plus qu'ils ne coûtent en général dans les sociétés. Mais c'est vrai que ce gouvernement par la peur, c'est quelque chose qui est largement utilisé par tous les gouvernements aujourd'hui. Donc il y a ça. Il y a aussi peut-être une autre raison, c'est de flatter les marchés financiers. Hein, parce que plus on diminuera la retraite par répartition, plus on réformera la retraite, et bien plus les salariés feront de la retraite par capitalisation. C'est logique, hein, ils auront raison, parce qu'il va falloir qu'ils se prémunissent contre le risque de tomber dans la pauvreté donc au moment de leur retraite. Et on a vu circuler dans les années 2010-2011 des rapports des agences de notation, ces fameuses agences qui notent les États, notamment un rapport de Standard & Poor's qui disait « si vous ne faites pas de réforme de retraite, on baisse votre note ». On baisse la note des États. Donc, les marchés financiers qui vont aussi faire une pression pour qu'il y ait une réforme des retraites.
Une pression intéressée parce qu'ils
vont pouvoir comme ça capter, hein, parce que les marchés financiers vont pouvoir capter ces ressources, parce que dans la répartition, ils n'y ont pas accès. Donc, ils captent ces ressources par les fonds de pension et les marchés et la retraite par capitalisation. Donc il y a aussi certainement cet aspect-là. Donc trois choses. Hein. Enfin, moi, je vois trois choses principales. Il doit y en avoir d'autres. C'est un nouvel impôt, faire des économies. C'est aussi flatter l'électorat âgé, l'électorat d'Emmanuel Macron, principalement.
Pourquoi ça le flatte?
Bien parce qu'on dit aux retraités, n'ayez pas peur, on fait une réforme des retraites, n'ayez pas peur, vous aurez toujours votre retraite. Ne vous inquiétez pas. Alors que juste avant, on leur avait dit, attention, inquiétez-vous, vous n'aurez pas de retraite. C'est pour ça qu'il y avait eu une enquête aussi qui disait que ceux qui étaient pour la réforme des retraites, c'était les plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui y sont déjà.
Il n'y en a pas ici. Hein.
Et là, ça risque de mettre aussi en conflit les jeunes et les vieux, parce que... Donc les jeunes, ils ont cette réforme des retraites qui est comme un peu une épée de Damoclès. Ils doivent déjà travailler plus que leurs parents, hein, puisque avant c'était 37,5, le nombre d'années qu'il fallait travailler. Aujourd'hui, on est déjà à 43. Les jeunes auront, je ne dis pas on parce que je ne suis pas jeune moi, mais les jeunes auront retraite plus faible, etc. Donc ça devient compliqué. Alors, sur cette... je reviens juste un instant sur cette hausse des impôts, sur une hausse des impôts camouflée. En fait, c'est un article aussi que j'avais lu d'Elsa Conessa dans Le Monde du 20 septembre qui montrait justement que c'était une façon d'imposer autrement les citoyens hein, pour donc financer la transition écologique, l'école et la santé, comme l'a dit Macron. Et là aussi, c'est tapé sur les jeunes alors qu'ils ont déjà pris cher, me semble-t-il, avec le Covid. Hein. Et on risque de fermer les universités.
Avec le Covid, avec une dette colossale dont certains économistes disent qu'elle sera remboursée par, par le travail et par aussi l'inflation qui va la rogner. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et puis on leur laisse une planète dans un état absolument pitoyable.
Oui, on leur laisse une planète pitoyable. Ça sera rogné par l'inflation d'un côté, mais aussi ça va augmenter par l'augmentation des taux d'intérêt de l'autre. Donc voilà. Alors qu'en même temps, il y a toujours une baisse d'impôts. Hein. On a, depuis 2013, avec la création du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, hein, qui devait normalement booster notre compétitivité. Pour l'instant, on n'est pas très, très boosté, mais on perd comme ça, en diminuant les impôts en permanence et les cotisations des entreprises, énormément de milliards, énormément d'euros, qu'on essaye de récupérer ensuite, notamment sur les retraites.
Donc on ne réforme pas les retraites pour vous ?
Non, je ne pense pas, parce qu'il s'agit de droits communs qui ont été conquis tout au long d'années de lutte acharnée. Hein. La protection sociale, la santé publique, les retraites, il ne faut pas les remettre dans le privé. C'est une forme de dépossession, relativement agressive d'ailleurs, au nom d'une économie libérale. On peut faire d'autres choses. Hein. On peut donc augmenter le taux de prélèvement comme le propose le Conseil d'orientation des retraites. On peut revenir sur les niches fiscales aussi. On peut essayer de faire payer ceux qui font énormément de profits. On peut aussi envisager d'autres choses. On peut aussi favoriser l'emploi. Alors certes, Emmanuel Macron parle du plein emploi rapidement, mais avec quels emplois aussi, hein ?
Il faut traverser la rue, il l'a dit lui-même.
Il faut traverser la rue, oui. Mais pour trouver quel emploi de l'autre côté de la rue, est-ce que c'est un emploi qui convient aux personnes ? Est-ce que c'est un emploi aussi qui permet de retirer des cotisations ?
Donc, conclusion, on va rester extrêmement vigilant à ce qui va nous être proposé, sachant que, un, il n'y a pas d'urgence, que deux, l'argent est là, qu'il n'y a pas péril en la demeure et qu'on va essayer de nous vendre quelque chose qui sera certainement beaucoup plus risqué que le système que nous utilisions jusque-là.
Oui, on continue. On nous a proposé de la retraite risquée à partir des années 80. Eh bien, on continue, on l'a fait devenir de plus en plus risquée. Hein. C'est ce qu'on avait appelé le capitalisme financiarisé.
Absolument.
Le risque porté par le salarié.
Allez, deuxième pause musicale. On va écouter les Goguettes en trio, mais à quatre, un groupe que j'aime bien, qui va nous chanter HSBC, une banque dont HSBC est une banque internationale, qui s'est séparée de sa branche française pour la vendre à un fonds de pension, justement, qualifié sur Wikipédia, je n'ai rien inventé, de fonds vautour. Écoutons cet HSBC revu par les Goguettes en trio, mais à quatre.
J'avais déjà ma Rolex à l'âge de 4 ans. Ma croissance dépassait les 5%. Dans la cour, je refourguais dégoûté de contrebande au grand. Je planquais mes magouilles, mais à 10 ans, je connaissais mon premier redressement. Aujourd'hui, j'ai grandi, mais j'ai gardé mon âme d'enfant. Maintenant j'ai un compte à la HSBC. Maintenant j'ai un compte à la HSBC. Occupe-toi de tes oignons, t'occupe pas de mon pognon. Viens pas foutre ton nez dans mon fric. Viens pas foutre la merde à la HSBC. Viens pas foutre la merde à la HSBC. À Genève, moi je suis nourri, logé, blanchi. La brosse à dents dans ma valise. Il ne manque à personne, il est à moi. Je le mérite, je le planque, c'est mon droit. Je donne la charité, oui, mais à qui bon me semble. On va quand même parfiler tout ça à l'État, qui balance des allocs à tour de bras à tous ces demeurés qui déposent tout à la poste. Ils avaient qu'à être à la HSBC. Ils avaient qu'à être à la HSBC. Mais ils fous de tes services publics. Avec mon fric, je me fais soigner dans les meilleures cliniques. De toute façon, mourir, c'est devenu un truc de pauvre. Et puis, j'ai mon avion privé, alors les prix des billets de TGV, ça me passe en dessous. Je vais pas covoiturer, même avec Mohamed VI. À ce qu'on s'amuse à la HSBC, à ce qu'on s'amuse à la HSBC. Viens pas gâcher la fête, touche pas à ma cassette, avec tes listings du Swiss Leaks, tout le monde soutient la HSBC. On est Charlie, on est HSBC. Financiers prolétaires, on est tous solidaires, que oui, personne ne touche à notre fric, à ce qu'on s'amuse à la HSBC.
Voilà les goguettes en trio, mais à 4, HSBC. Alors venons-en à une de nos dernières rubriques, l'économie en Occitanie. Quelques données rapides. Eh bien, si on écoute l'INSEE qui a sorti son bilan économique 2021, il faut quand même un peu de recul. L'Occitanie redresse sa trajectoire économique après sa chute d'activité historique du printemps 2020. Mais enfin, on sait un peu pourquoi. L'impact économique de la pandémie de Covid-19 s'atténue progressivement et en 2021, le PIB progresse de 6,8% en France par rapport à 2020. L'activité économique se redresse de façon plus marquée en Occitanie, donc on est meilleur que le reste du pays finalement. Et cela se traduit par une nette reprise de l'emploi salarié qui augmente de 3,4% par an. Enfin, sur un an au moins. Ce rebond permet au secteur des services et de la construction de dépasser nettement leur niveau d'emploi de fin 2019. En revanche, l'emploi industriel reste en retrait par rapport à l'avant-crise, en particulier dans la filière aéronautique. Et malgré la reprise, l'économie régionale reste ainsi marquée fin 2021 par les conséquences de la crise, en particulier sur le département de Lot-Garonne, qui était très dynamique avant la crise, et qui retrouve juste aujourd'hui son niveau d'activité de 2021. Et à l'inverse, si on regarde les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, eh bien, ils dépassent nettement les résultats de la Haute-Garonne. Alors c'est curieux, Anne, parce qu'on a vu beaucoup cet été tout le monde se plaindre du manque de personnel, tout le monde cherchait du personnel. C'est pas le Canada, c'est pareil, j'ai l'occasion de le constater récemment. L'Italie, c'est pareil, tout le monde cherche des gens pour travailler. Où sont-ils passés? C'est une bonne question. Où sont passés les gens qui pourraient travailler? Bien, on ne sait pas.
Ils attendent peut-être d'avoir de meilleures conditions de travail.
Et l'Occitanie reste quand même le leader mondial de l'aéronautique européen, avec 800 entreprises et 86 000 emplois, ce qui est moins, je crois d'ailleurs, que l'agriculture au niveau de la région. Mais bien sûr, c'est un atout pour notre région, mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes la deuxième région française pour l'emploi agricole et la première région pour le nombre d'exploitations bio. Alors il paraît que le bio baisse. Voilà, ce sont des mouvements qu'il faut regarder sur le temps, j'imagine. L'Occitanie a beaucoup investi également dans les énergies vertes. Elle est la première région pour le potentiel de l'éolien en mer, la deuxième pour la production photovoltaïque et d'hydroélectricité, et la troisième pour l'éolien. Puis nous avons bien évidemment le tourisme qui représente 10% du PIB régional, notamment grâce aux activités de thermalisme et l'hôtellerie de plein air. Nous, pour ça, on est la première région de France. Donc finalement, en Occitanie, tout ne va pas si mal que ça.
Non, il fait bon vivre en Occitanie.
Voilà, on va y rester, je crois. Allez, venons-en à notre avant-dernière rubrique, Anne, le conseil culturel. Alors moi, je vous recommande un livre, ça s'appelle « Je vous écris du front de la Somme ». C'est au Lien qui libère, c'est sous la signature de François Ruffin. L'auteur s'interroge sur ce qui a poussé certains électeurs de gauche à voter pour l'ORN, bonne question, et propose des solutions pour les ramener au bercail. Un constat sans concession, un socle de réflexion intéressant, et je vous cite ce qu'écrit François Ruffin, tout petit morceau bien évidemment. « Quel projet depuis 40 ans portent nos dirigeants? Aucun. Tout juste être compétitif. Comment appeler ça un projet? Comment espérer que notre peuple en sorte ranimé? Comment être surpris de son état d'esprit, d'apathie, de jalousie? Pour faire nation, il faut un destin, ou du moins un dessin commun. Voilà, donc je vous redis le titre. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. François Ruffin, je vous écris du fond de la Somme, Au lien qui libère, c'est un petit livre, pas cher, à portée de toutes les bourses, et on met les mains un peu dans le cambouis, on touche la réalité de près grâce à François Ruffin. Anne.
Merci. Alors, moi, je vous conseille un ouvrage et un événement. Alors, au niveau de l'ouvrage, justement, on parlait de ces emplois qui ne sont pas pourvus. Donc, je vous propose un livre de Thomas Coutreau et Coralie Pérez qui s'appelle « Redonner du sens au travail ». Entre parenthèses, une aspiration révolutionnaire au seuil. Donc, qui étudie, justement, ces problèmes de démission en chaîne, de refus des « bullshit jobs ». Hein, je ne traduis pas en français.
Les fameux bullshit jobs. si les jobs de merde, on peut le dire.
Voilà. Cette méfiance vis-à-vis des grandes entreprises, cette préférence pour le travail, qui questionne donc tout ce phénomène qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, il est crucial de s'interroger sur le contenu et la finalité de nos activités professionnelles. Donc, un ouvrage de Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Et puis, un événement à Eos.
Dans le Gers.
Dans le Gers, par la compagnie Opéra Éclatée. Enfin, l'association compagnie Opéra Éclatée, je pourrais dire plutôt comme ça. Samedi 1er octobre à 20h30. La guinguette Front Populaire, donc c'est un tour de chant enjoué pour écouter ou réécouter les chansons populaires des années 30. Réel, Miss Tinguette, Georgette Plana, Lucienne Delisle, Fernandel, Barbara, mais aussi Charles Trenet et bien d'autres. Donc pour ouvrir la saison en chanson et dans la joie, je vous propose de se retrouver à Eos le samedi 1er octobre à 20h30. Au cinéma théâtre.
Moi, je vais vous parler de deux autres événements. Déjà, une certaine histoire de L'Occitaniste, un film de Serge Planchou, qui est au cinéma ABC Toulouse le 4 octobre à 18h45. Donc, c'est une histoire de France qui ne ressemble pas tout à fait à celle qu'on peut lire dans nos manuels. Elle nous sera contée par Maurice Andrieux, qui fut un journaliste et un homme de théâtre. Voilà, et deux événements, une certaine histoire de l'Occitanie. C'est un film réalisé par Serge Planchou, que vous pourrez voir au cinéma ABC Toulouse, le 4 octobre à 18h45. Donc une histoire de France qui, elle, ne ressemble pas vraiment à celle de nos manuels et qui nous sera contée par Maurice Andrieux, journaliste et homme de théâtre et qui a été longtemps responsable de l'émission Occitane Vivre al País à France 3. Donc sa vision historique nous permet de comprendre qu'il existe des récits qui seraient, selon lui, et je veux bien le croire, quelque peu mensongers. Donc un film documentaire qui traite de ce sujet. La précision des lieux n'a qu'une importance relative. Il est basé sur un récit enregistré. Vous verrez cela. Donc je vous rappelle, Serge Planchou, une certaine histoire de l'Occitanie au cinéma ABC Toulouse, le 4 octobre à 18h45. Et puis le Lyon Club Toulouse Nation fait un concert au profit de l'hôpital Mondoudou, donc j'imagine que c'est pour les enfants, donc il faut quand même aller les soutenir. Ce sera le 13 octobre à 20h30, ce sera un concert à la cathédrale de trompe de chasse et d'orgue. Alors trompe de chasse à la cathédrale, j'imagine que ça va quand même faire un peu de bruit et ça risque d'être sympathique, ça peut être aussi très très beau, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était Economica. Une émission de Anne Isla et de Jacques Lavergne. Chéliane était Amada était au bouton à la réalisation. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et bien sûr tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica dans laquelle peut-être, n'est-ce pas Anne, nous parlerons de ce qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, l'inflation. Mais nous verrons cela au mois d'octobre. Belle journée à toutes et à tous.